Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Il est 13h à Bangui. Lors de vous inviter à suivre la grande édition de la mi-journée, une présentation d'Eda Lotindiko. Bonjour Eda.
Bonjour Ghislaine Berti, Amazoda, bonjour à toutes et à tous. Guerre entre la Russie et l'Ukraine. Après des jours de combat, des négociations viennent de commencer entre les deux pays. Si l'Ukraine exige le retrait des troupes russes, la Russie n'a pas encore montré sa position. A célébré hier la journée internationale des ONG. Nous serons à boire pour parler de la perception que les habitants ont du travail de certaines ONG. Et puis ce ouf de soulagement pour le réseau des personnes vivant avec le VIH-Sida en République centrafricaine. Il a reçu le week-end plus de 120 000 boîtes d'antirétroviraux. En sport, tournoi international de beach volley de la zone 4 à Douala, les Fauves quittent en principe Bangui demain pour le Cameroun.
Guerre en Ukraine, des discussions sont prévues entre délégations russes et ukrainiennes.
Oui, c'est en Biélorussie. La délégation ukrainienne est arrivée à la frontière biélorusse pour négocier avec la Russie. Rodrigue Leroy Benga, bonjour.
Bonjour Eda, bonjour à tous.
L'Ukraine exige un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces russes.
Oui Eda, les négociations viennent de commencer en Biélorussie. C'est la seule condition que l'Ukraine poserait peut-être sur la table, le retrait des forces russes. La Russie, quant à elle, veut trouver des accords avec l'Ukraine, mais sans donner sa position dans ses pourparlers. En ce cinquième jour d'affrontement, l'Ukraine a indiqué que la Russie a ralenti le rythme de l'offensive. La vie a un peu repris à Kiev, capitale ukrainienne. Certains habitants sont sortis pour faire des courses rapides. Si le Conseil de sécurité de l'ONU peine à trouver de résolution face à la tension entre la Russie et l'Ukraine, l'Assemblée générale des Nations unies doit se réunir aujourd'hui en session extraordinaire. L'OTAN prévoit aussi une vidéoconférence de ses États membres. L'Ukraine demande son adhésion dans l'Union européenne sans condition, mais des membres de l'Union sont encore divisés sur cette demande. De son côté, la Russie a indiqué que l'Union européenne agit de manière hostile, dangereuse et déstabilisatrice. Parmi les sanctions infligées à la Russie, la suspension de certaines de ses banques du système SWIFT, c'est le système international de transfert d'argent. Revenons sur le conflit EDA, le bilan provisoire de l'ONU évoque 102 civils tués et 304 blessés, mais les chiffres sont plus élevés selon le ministère ukrainien de la Santé qui a annoncé hier que 352 civils ont été tués et 1684 civils blessés. Quelque 422 000 réfugiés ont déjà fui les combats selon les Nations Unies. La Russie, elle, jusque-là, n'a pas communiqué de bilan.
Des précisions signées Rodrigue Leroy Benga.
Dans la suite de l'actualité internationale, des assises nationales sur la transition démarrent au Burkina Faso.
Les travaux de ces assises consistent à examiner et à adopter plusieurs documents issus des travaux de la commission technique mise en place par le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Parmi ces rapports figurent la charte, l'agenda et la charte des valeurs qui devront guider l'action des personnes chargées de conduire cette transition.
Cependant, au Tchad, le pré-dialogue national prévu dimanche au Qatar a été repoussé.
Le dialogue entre les forces politico-militaires et le gouvernement de transition au pouvoir à N'Djamena annoncé pour dimanche n'a pas eu lieu. Des problèmes logistiques et de coordination entre les autorités tchadiennes et le Qatar qui abrite cette rencontre serait à l'origine du report de ces pourparlers. Le dialogue national inclusif se tiendra le 10 mai prochain au Tchad.
À l'international, toujours Eda, mais cette fois-ci, on parle des centrafricains de France. Y a-t-il vraiment de la solidarité au sein de cette communauté?
Difficile de répondre à cette question, mais la plupart préfèrent vivre dans l'individualité. Les tendances politiques et ethniques créent également des mésententes entre cette communauté de plusieurs milliers de personnes. À Paris, Rolf Stevdomialu a fait le constat.
Si on dit souvent que l'union fait la force, ce proverbe n'est pas approprié pour qualifier la communauté centrafricaine de France. Chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est le maître mot qu'on entend parmi les centrafricains. King David Mizout vit en France depuis plus de 10 ans.
Les gens ne s'aiment pas, il y a trop de divisions entre nous, il y a trop de haine. Il y en a, il fait des choses pour détruire son frère, il y en a, il dit qu'il est plus riche que l'autre, il est plus riche que, il conduit la plus belle voiture, il y en a, il dit qu'il est propriétaire en France, il y en a, il dit qu'il est plus intelligent, il y en a, il dit que je c'est pas n'importe qui en France. On est arrivé au niveau de tribalistes aussi, hein. La même chose qui se passe à Bangui, les gens ils ramènent ici les trucs de tribalistes.
Cela fait 8 ans que Melvin Gbaté et sa famille habitent dans la région de Toulouse. Selon lui, les conflits d'intérêts détruisent les Centrafricains.
Être dans un milieu, dans une communauté centrafricaine, au fait, c'est se créer des problèmes soi-même. C'est des personnes, au fait, qui sont là tout le temps à rentrer dans ta vie, une fois qu'ils connaissent ta vie, et c'est là qu'ils en profitent pour te détruire, pour te faire des histoires, pour te faire cesser, pour te faire tout ce que tu veux. Ce qui fait que c'est un milieu qui est extrêmement compliqué. Ils se font des histoires entre eux jusqu'au niveau de la préfecture, au niveau de l'administration française.
Même problème du côté de l'île au nord de France. Fleur Aline Mamadou appelle les Centrafricains à la solidarité.
On prétend dire on aime notre pays, on aime la Centrafrique, mais en réalité, on n'aime pas notre pays. Et l'amour de la patrie, vraiment, il faut refaire cela aux Centrafricains. Et ceux qui sont adultes, je pense que c'est trop tard. Mais on peut se focaliser sur les jeunes enfants vivant en Centrafrique comme en France, de les apprendre l'amour de soi-même, ensuite l'amour de la patrie. C'est comme ça qu'on pourra être solidaire et être unis pour avancer.
On trouve parmi cette communauté des étudiants, des touristes, des travailleurs, des exilés politiques et ceux qui s'installent avec leur famille. Rolf Steve Domiale, Paris, Radio Ndekeluka.
Eda, venons à cette célébration hier de la journée mondiale des ONG.
Une journée instaurée pour rendre hommage aux membres des organisations non gouvernementales qui travaillent en permanence dans les zones les plus exposées de la planète en République centrafricaine. Les ONG ont largement assisté la population pendant les temps forts de crise et ce jusqu'aujourd'hui. À Boire, dans la Nanamambéré, certains habitants reconnaissent aussi le travail de ces organisations. On en parle avec notre correspondant Constant Dolobabou.
Ici à Boire, l'appui des ONG est apprécié par la population, surtout les bénéficiaires, même si leur domaine d'intervention est limité. Henriette Indéré, qui a reçu une assistance humanitaire pendant la crise sécuritaire en 2021, témoigne sa reconnaissance.
Nous sommes satisfaits du travail des ONG. Nous les remercions pour leurs actions en notre faveur. Nous souhaitons qu'elles continuent à nous aider pour nous permettre de s'occuper de nos enfants à travers le paiement de leurs assurances et autres choses.
Bénédicte Yassi apprécie aussi le travail des ONG, mais elle souhaite que ces organisations descendent davantage dans les quartiers pour identifier les vraies personnes en difficulté.
À mon avis, les ONG font un travail impeccable en termes d'assistance, mais il y a encore des choses à corriger. Il est important qu'elles aillent quartier par quartier pour identifier les vraies victimes afin d'alléger leurs souffrances, car beaucoup sont en train de souffrir dans les quartiers.
On compte au moins 10 ONG international dans la ville de Boire qui continue de venir en aide aux personnes en difficulté appelées dans le jargon des vulnérables. Constant Dolobabou, Boire, Radio Ndekeluka.
Restons toujours dans nos villes de province, à Birao, la préfecture de la Vakaga a désormais une nouvelle représentante au Conseil économique et social.
Attache Fatimé, c'est son nom, elle a été élue ce samedi parmi 3 candidats hommes en présence des autorités locales. Elle aura des défis à relever durant 5 ans. Armando Yang Guindy a pris part au vote à la mairie de Birao.
Pendant la campagne séance tenante, Attache Fatimé, très connue pour sa générosité envers les démunis et surtout sa lutte contre la discrimination faite aux femmes et aux filles dans cette localité où le concept du genre est encore mal perçu par les hommes et par certains chefs religieux,
est déclarée provisoirement conseillère économique et sociale. Madame Attache Fatimé.
Je suis vraiment très contente de mes frères et sœurs, maman, papa, qui m'ont choisi aujourd'hui, que j'ai gagné cette élection. Je le remercie vraiment infiniment.
À l'annonce de son élection par le préfet lieutenant-colonel Léonard Mbélé, président du scrutin, la foule n'a pas cassé sa joie. Les autres candidats reconnaissent leur défaite et appellent à l'unité pour les causes de la Vakaga. Hissène Karama, un des candidats malheureux.
Nous n'avons pas de requête à faire, c'est clair. Ce n'est pas pendant la nuit ni dans l'obscurité. C'est dans la transparence, pas de requête. Ce sont les femmes qui ont battu les hommes. Nous la félicitons et on va se préparer pour les 5 ans à venir.
Attache Fatimé succède à Zibert Garba, ancien conseiller économique et social de la préfecture de la Vakaga, dont son mandat prend fin cette année. Birao, Armando Nguindi, Radio Ndiki Lukia.
Dans la suite de l'actualité, c'est un ouf de soulagement pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Le ministère de la Santé a remis en fin de la semaine dernière à leur réseau le Récapev, plus de 120 000 boîtes d'antirétroviraux. Cette dotation, dont la valeur est estimée à plus de 460 millions de francs CFA, pourrait couvrir le traitement d'environ 5 000 patients. Cependant, un travail reste à faire pour mobiliser les personnes atteintes du virus à prendre régulièrement les médicaments. Au micro de Astrid de Bonheur Collégué, bienvenue Gazalima, coordonnateur national du Récapev, lance un appel aux patients de respecter les doses prescrites.
Vraiment, c'est un sujet de satisfaction, un ouf de soulagement pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA de la RCA. Vous convenez avec moi aujourd'hui, si un patient qui vit avec le VIH-SIDA qui n'a pas accès au traitement, il va à la mort. Donc, l'apport du gouvernement aujourd'hui vient booster les défis de la prise en charge en RCA. Aujourd'hui, notre pays a un taux élevé des personnes qui vivent avec le VIH-SIDA, mais il y a un gap qui est parlant. C'est pas tout le monde qui est mis sous traitement. On est au nombre de 88 000, mais c'est seulement 53 000. Côté des personnes vivant avec le VIH-SIDA, c'est pour moi, c'est d'exhorter mes pères à prendre ces médicaments aux heures prévues. Le traitement ARV, c'est un traitement à vie. Si tu ne prends pas les ARV, c'est toi-même qui vas créer ton tombe. À éviter les phénomènes de perte de vue. Les pertes de vue aujourd'hui dans notre pays, c'est le frein à la lutte contre le VIH-SIDA.
La page porte de cette mi-journée, c'est avec vous Claire Assamba, bonjour.
Bonjour Eda Lotindiko, bonjour à tous.
Commençons avec du volleyball. Après plusieurs mois de préparation, les Fauves de Beach Volley quitteront Bangui demain pour le Cameroun.
Oui Eda, ils y vont pour participer au tournoi international de Beach Volley de la zone 4 à Douala. L'annonce faite par Jean-Pierre Bernardin Badekara, président de la Fédération Centrafricaine de Volleyball.
Du football, les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, la République Centrafricaine a un seul objectif: sa qualification pour la première fois.
C'est ce qu'a indiqué Raoul Savoie, entraîneur des Fauves de Bazoubongui, que nous avons joint hier au téléphone.
L'objectif pour les Fauves A est clairement la qualification pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Nous avons maintenant à la fin du mois de mars une pause FIFA que l'on va utiliser pour bien travailler avec, j'espère, deux ou trois matchs amicaux afin de affiner le groupe qui en juin devra être très prêt pour affronter les quatre premiers matchs des éliminatoires, puis en septembre les deux derniers, donc c'est-à-dire en automne nous saurons déjà où nous nous trouverons et j'espère qu'on sera pour la première fois de l'histoire de la Centrafrique qualifié pour une CAN senior. J'ai fait un tour en Europe pour parler à tous les anciens cadres, à de nouveaux joueurs binationaux pour étoffer encore le groupe. On ne connaît pas encore nos adversaires puisque le tirage au sort sera fait à la fin du mois de mars, début avril, après les préliminaires. Et on doit travailler tous les jours dur pour cet objectif, pour être à 100% prêt au mois de juin lorsque les velléités vont démarrer.
Ici au stade Barthélemy Boganda, c'est la fête hier des matchs de la 15e journée du championnat retour de la Ligue de Bangui en première et deuxième division.
Aujourd'hui, c'est la pause pour toutes les équipes. Eda, deux matchs se sont joués hier en deuxième division. Victoire de Jeunesse Sportive de Boeing sur Racing Club du 3e arrondissement. 1-0 en première division. DRC 8 a dominé à Soupété 2-1.
Basketball féminin pour finir, le tournoi de pré-saison démarre demain à Bangui.
Effectivement, après les hommes, les filles de la Ligue de Bangui vont entrer en compétition. Au total, 5 équipes seniors dames vont s'affronter. Il s'agit de Nutec, Zarasclo, Assopété, Abeille et Horizon. Pour lancer les activités ce mardi 1er mars, Abeille affrontera Zarasclo à 15h30, suivi du duel Horizon-Assopété le 3 mars, Nutec, Abeille et Zarasclo-Horizon. Les rencontres se joueront au Palais des Sports à Bangui.
Ainsi prend fin ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite, la version en sango.